À Rencontre spirituelle, en ce 5 février, c'est l'anniversaire de la mort de Maurice Zundel. Maurice Zundel qui est décédé en 1975, un prêtre. Mais un prêtre vraiment exceptionnel dans ce siècle qui a marqué tellement la façon qu'on a de croire, en approfondissant vraiment la foi chrétienne. C'est un témoin de la présence de Dieu au cœur de nos vies. C'était un mystique, et c'est un homme qui avait une telle qualité, une telle profondeur, qu'il a été appelé par le pape Paul VI en 1972 à prêcher la retraite au Vatican, la retraite du carême. Lui, un simple prêtre suisse, qui n'avait pas toujours été reconnu pour ce qu'il était dans son propre diocèse. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ceux qui ont connu et approché personnellement Maurice Zundel, et il y en a beaucoup, et un peu partout, pas simplement en Suisse, mais aussi à Paris, en France, et puis au Caire, au Liban, où il a séjourné assez longuement, eh bien, ces gens-là qui l'ont connu personnellement témoignent à son égard d'une profonde reconnaissance, une admiration enthousiaste. Il y a des cercles Maurice Zundel, il y en a plusieurs à Montréal, il y en a un peu partout dans le monde. Parce que de sa personnalité émanait un tel rayonnement que ses prédications, qui étaient souvent improvisées dans leur formulation, j'en ai plusieurs sur cassette, c'est pas toujours facile à comprendre, eh bien, malgré tout, ça ne laissait personne, pas même le pape Paul VI, comme je vous l'ai dit, insensible. Tout le monde était saisi presque. Sa parole a bouleversé bien des existences. C'est le père Marc Donzé, recteur de l'Institut pastoral de Fribourg en Suisse, qui lui a consacré sa thèse de docteur en théologie, qui a su présenter ce théologien que fut Maurice Zundel et qui a su nous guider dans une première approche concrète de sa pensée spirituelle. Il a fait ça en liaison avec le père Bernard de Boissière, que j'avais eu la chance d'inviter à l'émission Rencontre à la télévision pour nous parler justement de Maurice Zundel. Et puis il y a aussi cette association des Amis de Maurice Zundel qu'il a fondée avec d'autres. Et ce sont les Amis de Maurice Zundel que l'on retrouve un peu partout, et en particulier au centre Unitas à Montréal, sur l'avenue des Pins. Je m'inspire donc d'un texte du père Marc Donzé. L'abbé Montini, qui est devenu le pape Paul VI, Giovanni Battista Montini, Jean-Baptiste Montini. Alors cet abbé Montini, l'abbé Zundel aussi, s'était connu à Paris dès 1928. Chez les bénédictines de la rue Monsieur, dans le 16e arrondissement. Il y a un monastère là de bénédictins, puis un autre de bénédictines. Vous pouvez voir ça quand vous allez à Paris. Et l'abbé Zundel, chose curieuse, était aumônier des bénédictines. Ils avaient fraternisé dans cette recherche brûlante qui les habitait de la présence divine. C'est pas tout de croire en Dieu puis de dire il existe, mais il est présent. Et ça, ça les habitait tous les deux, cette présence au fond de nous-mêmes, en chacun de nous. Et Paul VI a gardé pour l'abbé Zundel une amitié fidèle, très fidèle, qui s'est manifestée par des lettres, où il invitait Maurice Zundel à poursuivre ses recherches sur les problèmes du monde, par l'une ou l'autre citation de ses œuvres, notamment dans l'encyclique Populorum Progressio, il cite Maurice Zundel. Et aussi, quand il l'a invité, comme je vous ai dit, en 1972, à prêcher la retraite officielle au Vatican, l'estime du pape là, pour ce petit abbé était grande. Le pape Paul VI aurait dit de Zundel, écoutez bien ça, qu'il était un génie, génie de poète, génie de mystique, écrivain et théologien, et tout cela fondu en un avec des fulgurations. Des fulgurations. C'est une caractéristique profonde, ça, de Maurice Zundel. C'est comme un être qui est habité par des éclats de pensée, de recherche absolument sensationnelle. C'est d'ailleurs Jean Guiton qui rapporte cette parole du pape. Cette estime n'allait pas de soi, car dans son propre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, l'abbé Zundel a été considéré comme un marginal. Et il n'a pas eu droit de son vivant à l'attention qu'il méritait. Mais le jugement de Paul VI était sûr. Et d'ailleurs, si vous voulez lire, La retraite au Vatican, ça a été publié. Le titre, c'est « Quel homme et quel Dieu ?» Avec une très belle couverture, une espèce de d'abstraction figurative magnifique. Et c'était publié tout d'abord en Suisse, aux éditions Saint-Augustin à Saint-Maurice, avec une très belle préface du révérend père Ambroise-Marie Carré, dont je vous ai souvent parlé, de l'Académie française, qui n'est pas décédé, il est toujours là, le père Carré. Et c'est une très belle édition qui date d'une dizaine d'années. Donc, le jugement de Paul VI, c'était sûr. C'est avec une joyeuse surprise, d'ailleurs, qu'on peut constater que la parole de Zundel, chaude, forte, pleine de saveur spirituelle, trouve aujourd'hui encore, près de 25 ans après sa mort, un écho qui va toujours grandissant. Et cet attrait est dû à sa façon de parler vrai, qui reflète une expérience intérieure profonde et originale, dans laquelle beaucoup d'entre nous pouvons nous reconnaître. L'originalité de la pensée de Maurice Zundel peut tenir en deux phrases. Tout d'abord, l'homme ne devient vraiment homme que s'il est libre de soi dans la rencontre d'une présence qu'il dépasse. En somme, il faut se libérer de son petit moi, moi, moi quand on rencontre cette présence qui nous dépasse. Dieu est tout. Il est tout don. Autrement dit, si on veut parler un peu comme Saint François, Dieu est pauvreté. Mais bien sûr, il faut présenter Maurice Zundel de façon plus ample. On peut le faire en trois étapes. La première sera une sorte de biographie spirituelle. La deuxième, une esquisse de son itinéraire de pensée. La troisième, de quelques textes, auxquels je vous renvoie d'ailleurs. Parce qu'on va se contenter des deux premières façons. La biographie, d'abord. Maurice Zundel est né en 1897 à Neuchâtel, en Suisse. Son père était fonctionnaire des postes. Sa mère travaillait à la maison. Vie ordinaire, quoi. Sa ville, bourgeoise, un peu froide, était très protestante à l'époque. Et le petit Maurice fréquente l'école publique puis le collège de sa ville où il est à peu près le seul catholique. Mais il a pour camarade de classe le fameux Jean Piaget, le célèbre psychologue. Et très tôt, il va prendre goût aux sciences puis il va former avec Piaget un club d'amis de la nature. Très important. Il s'intéresse beaucoup aux sciences, hein, où l'on réalisait des études très fouillées sur les insectes, les mollusques, les oiseaux. Vous voyez ces enfants qui s'intéressent à ça. Et cette passion de la science ne le quittera jamais. Sa vie dure. Il a lu avec frénésie les ouvrages des scientifiques les plus significatifs. Imaginez qu'il est allé jusqu'à lire dans le texte là, la théorie de la relativité d'Einstein. C'est pas peu dire. Il avait notamment une grande admiration pour Jean Rostand. Je vous prépare une émission sur Jean Rostand d'ailleurs, dont le désintéressement le fascinait. Et moi aussi, ça me fascine chez Jean Rostand. C'est un homme intéressant, Jean Rostand, vous verrez. Pas croyant, mais intéressant. Et pour Maurice Zundel, la science est plus que la science. Elle est quoi? Elle est recherche de la vérité sur l'univers et en même temps dialogue obscur, émerveillé. Un dialogue lumineux avec la vérité du Créateur. Moi, c'est toujours ce que je ressens. C'est le Créateur partout dans la création. Et quand dans un brin d'herbe ou dans l'univers qu'on nous montre à la télévision ou au cinéma, là, ces immenses photos fantastiques, je viens de m'en acheter une, je l'ai encadrée, elle est sur le mur, et je l'observe, je médite devant cette photo de l'univers. Ah, pour lui, le savant véritable, c'est celui qui cherche à comprendre, qui sert la vérité et qui se réjouit de la lumière ineffable et gratuite qui se lève en lui. Dès lors qu'il atteint à une vérité profonde, une vérité essentielle, le savant, c'est celui qui cherche à faire grandir l'homme dans une connaissance et une maîtrise plus responsable de l'univers. Il en parle beaucoup dans « Dialogue avec la vérité » paru en 1964. Donc, à 14 ans, il est saisi par une expérience spirituelle profonde à ce moment-là. C'est assez étonnant. Ça peut peut-être faire sourire quelques-uns d'entre vous. C'est devenu décisif chez lui. Comme souvent, il allait prier dans l'église Notre-Dame de Neuchâtel, c'est un bâtiment néo-gothique assez sombre, mais il se tenait devant la statue de l'Immaculée de Lourdes. Et soudain, la présence de la Vierge l'a bouleversé jusqu'au plus intime. Puis il a reçu, dès ce moment, la vocation à la virginité qu'il n'a plus jamais quittée, tant l'image de Marie s'était imprimée en lui. Marie est devenue pour lui le sacrement de l'amour maternel et virginal de Dieu. De cet amour plein de tendresse qui jamais ne veut posséder. Il était contre la possession. Il donnait tout, lui. Il s'est donné aussi. Il disait, je l'appelle Virgo Virginans. Ça veut dire, ô Vierge qui nous virginise. Virgo Virginans, c'est délicieux, c'est ce qu'il écrit. Zundel a eu dès lors une approche toute particulière de l'amour virginal. Et c'est l'amour qui ne referme pas les bras, qui est toujours en état de don, le véritable amour. Hein? Un peu comme l'eau chasse là, du cantique du soleil de Saint-François, l'eau qui s'écoule sans jamais s'arrêter. Hein? Et à la même époque, il fréquentait un camarade protestant, un apprenti mécanicien. Ce dernier était pieux. Il avait tapissé sa chambre de versets de l'Évangile de Saint-Jean. Il était de condition très modeste. Et ensemble, ils parlaient de la condition des pauvres, mais aussi de la béatitude de la pauvreté. Puis se sont mis à lire « Quoi, les misérables » de Victor Hugo. Et Zundel est resté impressionné toute sa vie par, vous savez, l'accueil magnanime de l'évêque, Mgr Myriel, l'accueil qu'il fait à Jean Valjean, là. Dès lors, il a voulu porter secours aux pauvres et surtout, Maurice Zundel a voulu leur faire sentir leur dignité. Et ce souci ne l'a jamais quitté. L'abbé Zundel donnait tout, comme je vous ai dit. Les clochards de Lausanne le savaient, ils hantaient sa porte. Tout donner, c'était sa manière de montrer aux mendiants qu'ils étaient des princes. De cette période, il est sensible aux problèmes de justice sociale. En 1921, il prend pratiquement, à 24 ans, seul parti publiquement en faveur du vote des femmes. À partir des années 30, il écrit sur le chômage en proposant les solutions d'aujourd'hui. Lui, qui est un mystique pourtant, il aborde les problèmes démographiques, etc. C'était alors peu commun dans le clergé, mais revenons en arrière de quelques années. De 16 à 18 ans, il passe 2 ans au collège de l'abbaye bénédictine d'Einsiedeln. Einsiedeln, c'est une abbaye qui date du 10e siècle, en Suisse. Il y a des sports d'hiver, là. Et puis, il a été saisi par la liturgie, puis il a consacré, la liturgie des bénédictins, là, il a consacré plus tard son ouvrage le plus connu, ce qui est le poème de la Sainte Liturgie. Moi, j'ai ça depuis les années 40. C'est tellement beau, ce livre, c'est publié dans le temps chez Desclés de Brouwer. Ça a dû être repris maintenant. Mais surtout, il a été subjugué par le silence des moines bénédictins. Le silence lui est devenu indispensable, car il est le seul chemin vers Dieu, vers la beauté, vers la vérité, vers l'amitié. Il dira, le silence est forme d'ouverture, de démission, de pauvreté. S'il est impossible de rencontrer la beauté et l'amour en dehors du silence, c'est que Dieu est silence, comme il est pauvreté. Puis il a fait ensuite ses études de théologie au grand séminaire de Fribourg, où il a eu pour condisciple le futur cardinal Journet, avec lequel il s'est pas toujours entendu. Et ce fut pour lui une période difficile et sèche. Dans son grand séminaire, il ne retrouvait pas le silence puis la belle ordonnance liturgique des bénédictins, mais surtout, il avait peine, et je m'en souviens au grand séminaire, il avait peine, c'était la même chose à Montréal, à supporter la scolastique qui lui semblait enfermer Dieu dans un système. Il avait peur qu'on en fasse un grand souverain dominant le monde, alors que le seul Dieu dont il faille parler, c'est le Dieu du cœur de l'homme, selon l'expression de Saint François de Sales. Revenons donc à Maurice Zundel, qui toute sa vie a voulu parler uniquement du Dieu de Jésus-Christ, du Dieu trinitaire. C'est ce qui m'enchante le plus chez lui, ça. Du Dieu humble et pauvre aussi, qui a touché son cœur puis transformé sa vie. Et sa théologie, qui est tout à fait basée sur le Nouveau Testament, est née de son expérience. Il le dit dans une formule très, très suggestive. C'est très beau. Dieu n'est pas une invention, c'est une découverte. Ou encore, Dieu, c'est une expérience. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, c'est pas ça. C'est pas l'imagination. Dieu doit être découvert. C'est pas un fruit de l'esprit. C'est la force de l'approche de Maurice Zundel, ça. Que de puiser au cœur de son expérience, de l'expérience, car si l'expérience est profonde, elle va rejoindre le chemin de beaucoup de gens, qui vont trouver alors dans les écrits puis la vie de Maurice Zundel une consonance avec ce qu'ils vivent, seuls et souvent même isolés. Mais c'est aussi, évidemment, sa faiblesse, là, car la pensée de Zundel, ça peut demeurer un peu étranger, voire un peu énigmatique aussi. Pour celui qui s'approche de Dieu ou de sa propre intériorité, là, par des voies très différentes de la sienne. En ce sens, faut y aller doucement. Il est guère étonnant que l'abbé Zundel, dans son originalité, colorée par le personnalisme et la rencontre de saint François d'Assise, et le cardinal Journet, thomiste et systématicien, c'est pas surprenant que ce soit pas compris tout à fait. Le cardinal Journet n'était pas seul, loin de là, il y en avait d'autres qui protestaient. En 1919, à 23 ans, Maurice Zundel est ordonné prêtre à Fribourg. Il est envoyé comme vicaire dans une paroisse, la plus grande de Genève. Et très vite, son apostolat attire l'attention car il fait rien comme tout le monde. Il se trouve incapable d'enseigner le catéchisme tel qu'il est. Il préfère lui conduire les enfants à Dieu à travers l'émerveillement devant les grandes œuvres d'art, puis à travers la lumière des récentes découvertes scientifiques. Alors avec les jeunes gens et les jeunes filles, il parlait aussi de problèmes socio-économiques, du mariage et même d'éducation sexuelle. Une de ses anciennes, enfant du catéchisme, disait « Il avait un tel sens de la grandeur de l'homme qu'il voulait nous la communiquer. Parfois, nous ne comprenions rien ou nous étions déroutés, mais nous le suivions car il nous respectait et il nous élevait. » Mais l'originalité puis le zèle ne sont pas toujours de mise. Un de ses confrères, que Zundel avait surpris sans le vouloir en une posture morale plutôt fâcheuse, l'a dénoncé calomnieusement pour ses audaces, etc. Alors l'évêque d'alors, Monseigneur Besson, qui était très prudent, un évêque assez conservateur, a porté sur Zundel un jugement dont les conséquences vont s'avérer très très graves. Et c'est un franc-tireur, puis l'Église, elle n'aime pas toujours les francs-tireurs, on le sait. Elle est prudente, l'Église, souvent beaucoup trop prudente. Et l'évêque choisit d'éloigner cet original, comme il dit, alors commença une longue et douloureuse période d'exil pendant 20 ans, plus de 20 ans, de 1925 à 1946. La Zundel est d'abord envoyé à Rome, à l'Angélicum, chez les Dominicains, qui ont une grande université, là, pour y refaire sa théologie avec le père Garrigou-Lagrange, le fameux père Garrigou-Lagrange. Je vous prépare une émission sur lui aussi. Alors il approfondira le thomisme, puis il choisit la philosophie. Puis sa thèse de doctorat va s'intituler « L'influence du nominalisme sur la pensée chrétienne ». Je pourrais vous développer ça, mais je n'ai pas le temps. Et en 1927, son évêque l'envoie à Paris. La Zundel passe 6 mois comme troisième vicaire, imaginez, à Charenton, troisième vicaire. Seul, presque sans travail pastoral, presque rien à faire, il croit mourir de dessèchement. Mais plus tard, il va rendre grâce pour cette terrible expérience. Il n'aura aucune amertume. Car c'est à ce moment-là que j'ai éprouvé jusque dans le creux de ma chair le silence, la pauvreté, la croix, et que j'ai dû trouver mon propre chemin dans la pensée et l'action, dit-il. Sans cette période de mort, c'est ce qu'il ajoute, sans cette période de mort, je ne serais jamais allé si loin. Ça me rappelle quand à Radio-Canada, on a bloqué mes émissions rencontres à la télévision après 19 ans. Et j'avais 2 grands projets, un sur la rédemption, un sur le Saint-Suaire de Turin. On me les a refusés, on m'a mis sur une tablette, et je me suis senti comme dans une période de mort. J'en suis même tombé malade, et je sais que ce vide suscite en nous quelque chose d'autre par après. Et d'ailleurs, on dit sur Maurice Zundel que bientôt, il a trouvé un poste de second aumônier chez les bénédictines de la rue Monsieur, où il était. C'est là qu'il va rencontrer le pape. Puis alors, il commence à respirer de nouveau. Hein. Il y noue les grands amitiés avec l'abbé Montini, le fameux futur Paul VI, Charles Dubos et Louis Massignon, tous les deux, je vais vous faire des émissions sur eux. Et de ce temps-là, date la rencontre de Zundel avec saint François d'Assise, le Dieu pauvre qui devient à tout jamais vie en lui. Il dit « L'incendie s'est allumé en moi ». Je percevais que la mystique trinitaire était l'expression d'une générosité d'esprit, une générosité fantastique. L'esprit pouvait aller plus loin. Saint François m'est apparu comme celui qui a eu la mission unique de chanter la pauvreté comme une personne et de voir en elle Dieu lui-même. Vous savez, il l'appelait sa sœur, la pauvreté. Et Maurice Zundel ajoute ce que les théologiens disaient admirablement, sèchement, devenait vivant, et le regroupement s'est fait de lui-même. La sagesse de Dieu s'identifiait avec la pauvreté. Ça, c'est cité dans le livre « À l'écoute du silence » que m'avait offert Don Claude Jean-Némy, que j'avais hébergé chez moi. Oh, j'ai lu ce livre avec passion. C'est lui-même qui l'a édité. C'est un livre de... Mon Dieu, je me souviens plus de l'auteur. Et dès lors, l'hymne à Dame Pauvreté illuminera toute sa pensée. Puis un d'elle va désigner Saint François d'Assise, le Poverello, non sans quelque humour, comme le plus grand théologien de tous les temps. Il y a de l'humour là-dedans. Et l'exil va lui donner aussi la possibilité d'écrire. Et puis, il va écrire là, le poème de la Sainte Liturgie en 1934, que Mgr Montigny a pris la peine de faire traduire en italien dans le souvenir des belles heures de la rue Monsieur. En 1937, il peut réaliser un de ses rêves les plus chers. Il va passer une année à l'École biblique de Jérusalem. Je vais vous parler le 10 mars du fondateur de l'École biblique de Jérusalem, le père Lagrange, un dominicain. Alors là, Maurice Zundel va étudier les langues et le texte biblique. Avec une véritable frénésie, il dort souvent même que, dit-il, c'est assez curieux, 32 minutes par nuit. Il voulait que toutes ses forces suscitent en lui la compréhension de qui était ça, ce pauvre de Bethléem, Jésus, le pauvre de Nazareth, le pauvre de la croix. On disait qu'il méprisait l'Ancien Testament. Il en parlait souvent de façon critique. Il est clair qu'il n'ignorait pas la loi et les prophètes et qu'il savait en goûter la grandeur. Son temps à Jérusalem le prouve. Hein. Mais un d'elles était si pénétré de la grandeur puis de la merveille du Dieu trinitaire révélé par Jésus-Christ. Il était si jaloux du Dieu d'amour, le Père qui aime son Fils et le Fils qui aime son Père, cet amour qui est l'Esprit Saint, que tous les passages de l'Ancienne Alliance, là, où Dieu apparaît sous des traits de colère, de punition, d'interdit, lui paraissaient indignes de Dieu. Moi, quand je les lis, parfois, ça me paraît blasphématoire. Il avait bien raison, Maurice Zundel, d'y voir simplement la patiente pédagogie de Dieu. Où Dieu, qui est tout amour, a dû parfois laisser qu'on le désigne d'une manière indigne. Indigne de lui, à cause de la faiblesse des hommes, puis de la lenteur, de notre cheminement à travers les siècles. Pour lui, il faut donc tout interpréter à partir de la nouveauté radicale apportée par la révélation de Jésus-Christ. Alors, de retour à Neuilly, à Paris, en 1938, il publie un nouveau livre, « Recherche de la personne », et ce livre sera retiré du commerce sur ordre de son évêque, imaginez. Zundel y parlait de façon trop réaliste et audacieuse du mariage et de l'amour. C'était à l'époque inconvenant, disait-on, sous la plume d'un prêtre. Les choses ont bien changé aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de grave dans ce livre. Mais par ailleurs, Zundel n'était pas moins exigeant que Paul VI dans sa manière d'entrevoir la morale conjugale, tout en enfermant personne dans des catégories culpabilisantes. À la déclaration de la guerre en 1939, il retourne en Suisse. Il est hébergé pendant quelque temps dans une chambrette, dans un clocher, dans le canton de Vaud. Et comme il est toujours sans travail, il écoute les conseils de ses amis, Louis Massignon et Marie Cahill. Il se rend au Caire, en Égypte, où il va assumer jusqu'en 1946 toutes sortes de ministères. Ah, les Égyptiens l'aiment beaucoup, d'ailleurs. Et puis, inévitablement, il va rencontrer l'islam. C'est un choc où se mêle chez lui l'admiration et l'effroi. Et je vous dirai pourquoi il a été effrayé par l'islam. Et alors donc, nous étions avec Maurice Zundel, ce très grand théologien, ce très grand penseur mystique, apprécié profondément par le pape Paul VI, en dépit du rejet qu'il avait subi plus jeune par son évêque. Alors, il est rendu au Caire, et inévitablement, comme je vous ai dit, il rencontre l'islam. Et c'est un choc où se mêlent l'admiration et l'effroi. Il admire la poésie, la grandeur du Coran, mais il goûte aussi encore plus, peut-être, les mystiques musulmans, notamment à l'âge. Je vous ai déjà parlé de quelques grands mystiques musulmans, j'en prépare d'autres. Mais Maurice Zundel est gêné par le poids sociologique de la religion musulmane. Lui qui est si attentif à la liberté de la personne. Parce qu'on n'est pas très très libre sur les régimes musulmans en général. Surtout, Maurice Zundel vit comme un cauchemar le Dieu de l'islam. Quelque belle que puisse être la litanie de ces 99 noms, c'est très beau, faudrait qu'un jour je vous les récite. On prend un chapelet musulman. Le grand chef musulman de France m'en avait donné un, car on s'entendait bien, nous étions devenus amis. Et c'est très beau. Et je pourrais vous le donner, c'est assez beau. Mais dans ce Dieu solitaire des musulmans, Maurice Zundel craint de voir une sorte de pharaon tout-puissant et de despote inaccessible, devant lequel on ne peut que plier, et qui est totalement incompréhensible pour la vie spirituelle d'un homme libre. C'est un jugement sévère. Il découvre alors avec une profondeur nouvelle le mystère trinitaire. Dieu est unique, mais pas solitaire. Dieu est don, Dieu est amour, Dieu est partage dans son être même. Dieu crée l'homme dans une structure d'alliance, d'amour. Il crée l'homme libre. Et Dieu rachète l'homme dans une structure d'alliance toujours, une alliance. Et dès lors, Maurice Zundel ne cessera de clamer avec toute son énergie que la révélation trinitaire constitue la clé de tout le mystère de l'homme, et que cette révélation représente le fondement de la libération de l'homme. De l'homme qui, libre de soi et de tout, peut se jeter dans les bras d'un Dieu qui est liberté. Il ne cessera de parler du mystère de la Trinité avec fougue, mais aussi avec précision, car il est probable, dit-il, que si Mahomet, le fondateur de l'islam, avait connu avec exactitude la révélation trinitaire qui lui a été très mal enseignée par un prêtre schismatique, il n'aurait pas parlé ainsi du Dieu révélé en Jésus-Christ. De ce passage au Caire, en Égypte, Maurice Zundel va garder beaucoup d'amis qu'il continuera de visiter jusqu'à sa mort. Et en 1946, il revient en Suisse. Enfin, il reçoit à nouveau une affectation, ou une nomination dans son diocèse. Un poste assez vague d'auxiliaire à la paroisse Sacré-Cœur d'Ouchy à Lausanne. Il va garder ça jusqu'à sa mort. Pendant près de 30 ans, il mène une vie de prédicateur itinérant qui le conduit à Paris, à Londres, en Égypte, au Liban. Il donne d'innombrables retraites et des récollections. Il fait de la direction spirituelle avec une disponibilité de chaque instant. Il vide ses poches pour les pauvres. Dame qui s'occupait de lui était désespérée. Elle lui achetait un manteau. Aussitôt il sortait, le manteau était disparu, il l'avait donné. Il écrit quelques livres, Dialogue avec la vérité, Morale et mystique, Je est un autre. Vous pouvez trouver ses livres chez la grande éditrice à Québec, Anne Sigier. Et sa parole à Maurice Zundel, elle est flamboyante. Elle est authentique. Parce que c'est parfaitement accordé à sa profonde vie spirituelle. Il ne fait pas que parler, il vit. Elle est riche, sa parole, elle est séduisante, puis elle est appuyée sur une immense culture. Surtout, sa parole dit l'homme, et sa parole dit Dieu, avec une transparente conviction. Quelques-uns y trouveront une ineffaçable nourriture, mais ils sont trop peu nombreux encore. Le succès n'a pas été son lot, d'ailleurs, au cours de sa vie, mais il existe... Après la mort, souvent bien des fécondités, et on semble aujourd'hui, en cette fin de siècle, comprendre Maurice Zundel beaucoup mieux. Et c'est dans cette vie humble, de petit prêtre, de rien du tout, tragique parfois, qu'arriva cet appel de Paul VI à prêcher la retraite au Vatican en 1972. Je vous rappelle le titre du livre, « Quel homme, quel Dieu », paru en 86. Du moins, l'édition que j'ai, moi. Et puis... C'est une incessante audace, ça, du pape Paul VI. Et le petit abbé, si souvent incompris, a parlé en grande simplicité devant l'auditoire le plus auguste que l'on puisse imaginer au Vatican. À la fin de la retraite, savez-vous ce que le pape, dans son homélie, a dit? Il a dit « Nous venons de suivre toutes ces méditations si spirituelles, si profondes et en même temps si près de nous, si proches de notre expérience. Il me semble que nous avons été invités à imprimer dans notre âme une attitude, celle de rechercher la profondeur des choses, de faire germer l'intériorité de ce que nous connaissons et vivons, à commencer par notre propre personne. » C'est beau, hein? Et au début de 1975, il subit une embolie cérébrale. qui le prive de la parole. C'est un dépouillement épouvantable pour quelqu'un qui aimait parler de Dieu. C'est un dépouillement terrible, d'autant plus qu'il savait aussi de nombreuses langues. Une sourde angoisse l'étreint devant sa vie qui se disloque. Il écrit, écoutez ça, c'est beau. Toi dont le silence est créateur, dans l'excès de mes mots, ne laisse pas s'éteindre mon esprit. Apaise mon angoisse par ta présence de lumière. Voulez-vous qu'on recommence? On va prier ensemble. Toi dont le silence est créateur, dans l'excès de mes maux, de mes souffrances, ne laisse pas s'éteindre mon esprit. Apaise mon angoisse par ta présence de lumière. Je pense à Madame Gaulle, une amie qui n'est pas bien du tout ces jours-ci, mais très âgée. Et Maurice Zundel a vu la lumière éternelle le 10 août 1975. Beaucoup de ceux qui l'ont connu disent qu'il était un saint. Puis René Abachi qui a dit ça. Dans ce beau texte du père Marc Donzé, il dit que Maurice Zundel a laissé comme témoin de son expérience spirituelle une vingtaine de livres et de nombreux articles. Ses auditeurs, ses amis ont recueilli un nombre considérable d'enregistrements de ses retraites et de ses homélies. On peut se les procurer peut-être en téléphonant, en laissant son nom à Radio Ville-Marie, à mon intention. Au premier abord, le lecteur ou l'auditeur a l'impression d'avoir affaire souvent à un ensemble de thèmes fort disparates. C'est pas pour tout le monde, c'est pas facile toujours. Voici par exemple les titres de quelques chapitres de « Je est un autre ». Ça vous donne une idée de ce qui est contenu là-dedans. « Je est un autre » est publié chez Anne Sigier. Alors les chapitres. « Rencontre de soi et rencontre de Dieu ». « Le problème du mal ». « Morale d'obligation et morale de libération ». « Le vrai visage du Christ ». Oh, c'est très beau ça. « Psychanalyse et sacrement ». Alors, il y a une diversité qui peut dérouter un esprit un petit peu trop systématique, mais Maurice Zundel, c'est pas un universitaire, c'est un mystique, c'est un poète, c'est un pasteur, quoi, un vrai prêtre. Et l'éclatement des thèmes est dû précisément à sa manière de méditer les choses de la vie et les choses de l'esprit. En effet, il s'arrête sur un des aspects les plus nobles, les plus douloureux de l'expérience humaine, puis là, il creuse toutes les implications jusqu'à y trouver la place et la lumière de Dieu, comme dit le père Marc Donzé. Ou s'il médite sur l'un des aspects du mystère chrétien, il cherche à en dégager la lumière que ce dernier peut apporter à la vie de l'homme. Là. Il tente aussi d'exprimer toutes les conséquences morales ou éthiques, si on préfère, qu'implique le mystère trinitaire. La pensée de Maurice Zundel se présente ainsi comme un aller-retour entre l'homme et Dieu, entre les expériences de la vie et les éclairages de la révélation. Car il éclaire tout par le Nouveau Testament. Et de ce fait, elle a un aspect rayonnant ou solaire. D'un canton de l'expérience humaine, elle va s'engouffrer dans le soleil du Dieu révélé. Puis à partir de ce foyer divin, elle va éclairer la vie et le comportement de l'homme. C'est ce qui nous arrive quand on va à l'église tous les jours. Nous sommes devant le soleil de Dieu. Et ce foyer divin éclaire nos vies. La parole qui est lue, la parole qui est prêchée, j'espère, de façon intéressante et profonde. La messe qui devrait être dite de façon si belle et si bouleversante. Et l'Eucharistie que l'on reçoit, la communion, c'est le soleil divin. Et c'est ça. Et prier, c'est ça. En fait, le caractère disparate des écrits de Zundel n'est qu'apparent. Sa pensée est profondément une. Elle trouve sa cohérence dans une expérience forte et originale. Qu'a été cette rencontre de Zundel avec le Dieu humble et pauvre de l'Évangile de saint François d'Assise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puis de tant d'autres qui ont été saisis par le Christ de Bethléem, le Christ de Nazareth, le Christ du Golgotha. Zundel, lui-même, n'a jamais été tenté de faire des systématisations de sa pensée. Ce n'est pas son charisme. Le point de départ, chez lui, c'est l'homme. Il n'y a de problème que parce que l'homme est à lui-même un problème, disait-il. Et c'est vrai. Hein? C'est notre seul problème, c'est d'être un problème pour nous-mêmes. Pour Zundel, l'homme est digne d'une attention infinie, puisque Dieu lui-même lui porte une attention infinie. Quand on sait que Dieu nous porte une attention infinie, on cesse d'avoir des petits problèmes. Si Dieu nous aime à ce point-là, comment aller contre son amour? Au départ, par voie de naissance, selon Zundel, l'homme est un ensemble de déterminisme. Il n'a rien choisi de ce qu'il est au premier jour. Il a donc à se faire. Devenir un homme ou une vocation, ce serait au fond le péché originel. Il peut alors prendre deux directions et rester englué dans ses déterminismes de race, de classe et même de religion, puis rester accroché à son moi possessif, qui attire à soi le plus possible, à l'image de l'enfant qui crie pour que ses besoins soient satisfaits. Il peut demeurer esclave des énergies puis des pulsions impersonnelles qui montent en lui, et dans ce cas, il n'y a encore personne, il n'est pas une personne, car pour Zundel, la personne n'advient que dans le don. C'est le jour où la personne cesse de vouloir posséder, mais donne, se donne, là, car elle ne devient libre, elle n'acquiert son vrai espace qu'au moment où, prenant appui sur tout ce qu'elle a reçu, elle s'ouvre à l'offrande, à l'oblation. Et en ce sens, la personne n'advient qu'au prix d'une conversion, une vraie conversion qui la fait passer là, du gardiennage jaloux de ses petits biens puis de son petit espace de... la fait passer à la générosité. Et la direction vraie est dans l'oblativité, dans l'offrande, dans le don de soi. Il s'agit d'une expérience libératrice où l'homme se découvre plus grand que lui-même, dans la lumière qui se lève en lui dès qu'il s'ouvre à l'autre. Cette lumière, c'est Dieu. Et il peut l'atteindre par l'art, par la science, par les relations interpersonnelles. L'homme ne devient donc homme que dans la rencontre où il se perd de vue et où il se trouve restitué à lui-même dans une dimension plus pleine. Et Zundel aime à traduire cette expérience par un mot qu'il emprunte à Arthur Rimbaud. Je vous avais fait une belle émission sur Arthur Rimbaud. « Je est un autre. Je est un autre, c'est Dieu. » Maurice Zundel, qui a écrit cet ouvrage « Je est un autre » d'après les paroles d'Arthur Rimbaud, il veut dire que cet autre ne saurait être simplement un homme ou une femme, pas plus capable que moi de fonder mon infinie dignité, comme il dit, ni de combler cette exigence infinie qu'on ressent au fond de nous-mêmes, du don de notre liberté. Cet autre, « Je est un autre », Maurice Zundel aime l'appeler « présence », avec un P majuscule, « présence ». Vous voyez bien, c'est Dieu. Hein? Il en décrit les caractéristiques telles qu'il les pressent à travers l'expérience humaine. Il est personnel, puisqu'il est personnalisant. Cet autre qui est la présence est beauté, lumière, vérité, liberté, s'il peut recevoir l'hommage de ma liberté. Il est pauvreté ou désappropriation, et donc, s'il peut accomplir l'élan de ma pauvreté, il est absolu et infini. S'il peut combler l'infini de mon désir, l'infini de mon désir. En somme, l'expérience humaine pointe en direction de Dieu. Mais si Zundel le nomme présence, c'est pour en préserver le mystère. Mais alors, qui donc est Dieu? Ou mieux, cette présence-là existe-t-elle? C'est une terrible question pour Zundel, car si elle n'existait pas, dit Zundel, l'homme ne serait qu'une épouvantable chimère. Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait dans cet univers qu'il n'a pas créé, puisqu'il n'existe pas? Et qui sommes-nous qui sommes sortis du sol? Par le sein de notre mère et l'action de notre père, qui sommes-nous? Personne ne nous a fait. Nous sommes là dans le désert et dans le silence immense et éternel. Cet univers serait éternel, il n'a pas été créé. Dieu n'existant pas. Nous sommes donc des chimères, des poupées de chiffon. Rien du tout. Rien du tout. Si la présence n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, nous ne sommes que des chimères. C'est ici qu'intervient comme un souffle libérateur la révélation chrétienne, car elle vient dire Dieu d'une manière qui comble l'homme, avec une surabondance surprenante, insoupçonnée, insoupçonnable à ceux qui n'ont pas la foi. L'émerveillement de Maurice Zundel devant le Dieu de l'Évangile atteste que pour lui, Dieu n'est pas seulement la réponse à la question de l'homme, mais Dieu est un don infiniment plus grand, dans lequel l'homme peut s'accomplir et se perdre à l'image d'un enfant émerveillé dans une cathédrale. Quand il parle de Dieu, Maurice Zundel va tout de suite à l'essentiel, au centre, au mystère trinitaire. La Trinité, c'est le don le plus libérateur et le plus précieux. Si Dieu était un narcisse infini qui se contemple éternellement lui-même, ou un potentat arbitraire, ce serait un cauchemar et nous ne comprendrions rien. Mais en Dieu, il y a la relation, il y a l'autre. En Dieu, il y a le don du Père au Fils et du Fils au Père dans la respiration de l'Esprit. En Dieu, il y a l'amour éternellement communiqué. Si donc Dieu est ainsi, dans son être même, toute l'exigence de l'expérience humaine devient compréhensible et vivable. L'homme peut alors prendre le dur chemin du don de soi dans la libération de soi. Car Dieu est, en absolu, ce à quoi il appelle l'homme. Dieu est don et désappropriation éternelle. Dieu est, en ce sens, pauvreté. Et à partir de ce sommet-là, Maurice Zundel va dérouler tout le mystère chrétien dans le langage de la pauvreté. Et ce n'est pas uniquement poétique ou spirituel. Ce mode de parler manifeste au mieux les correspondances entre l'expérience humaine puis la révélation chrétienne. C'est ce qui le rend très suggestif pour beaucoup de gens aujourd'hui qui aspirent et qui veulent croire. Croire avec Zundel, c'est croire pleinement. Après le mystère de la Trinité, Zundel part à la rencontre de l'incarnation. Là, le Verbe incarné, c'est la rencontre de deux pauvretés, celle de la deuxième personne de la Trinité, toute désappropriée en direction du Père dans la respiration de l'Esprit, et celle de l'humanité de Jésus qui, toute désappropriée d'elle-même, et donc entièrement disponible à Dieu, a pour personnalité celle-même du Verbe. Pour Zundel, Jésus est le cas limite de l'être homme. L'homme naît avec une autonomie frauduleuse, pourrait-on dire, qui le constitue en une sorte de moi possessif. Hein? Moi, et je veux posséder. Et il faut s'en libérer. Et en Jésus, et c'est unique, tout est toujours ajusté à Dieu, dans une pure et absolue transparence. Chez lui, tout est don. Il faut imiter Jésus, il faut le laisser vivre en nous. Sa nature, dynamisée tout entière par un élan divin, elle est revêtue par la même d'une personnalité divine qui l'a fait passer tout entière dans le règne de Dieu, en lui conférant une mission proportionnée à une telle grâce. Et ainsi situé, bien Jésus, c'est l'horizon absolu de notre devenir homme, de notre libération de nous-mêmes et de notre don. Or, Jésus est aussi sauveur. Hein? Sur la croix, Jésus est suprême pauvreté. Suprême pauvreté de Dieu, qui se soumet à la volonté de la créature, qui continue d'offrir l'amour pour qu'un jour l'amour réponde à l'amour. C'est une suprême puissance de Dieu là qui se révèle à nous, au cœur de l'amour accueilli pour donner un jaillissement de vie, de paix, de joie, pour recréer ce qui avait été disloqué. C'est ce qui fait les saints. Si Dieu est amour, il ne peut créer que dans l'amour, c'est-à-dire dans une structure d'alliance. Ah, Dieu est mystérieusement victime du mal, car le mal est rupture de l'alliance, et c'est pourquoi le péché peut être si terrible. Je vous en parlerai la semaine prochaine, le 12 février, le mercredi décembre. L'Église, c'est aussi mystère et vocation de pauvreté. L'Église a mission de donner le Christ. Nous avons la mission de donner le Christ, de devenir transparence à sa présence. Et les prêtres, ah, nos prêtres, ils ont mission de s'effacer pour transmettre en vérité le Christ qui se donne et qui pardonne. Le pape lui-même reçoit le charisme de l'infaillibilité pour s'effacer tout entier devant l'action de l'Esprit-Saint Et non pas pour asseoir une quelconque puissance, mais non. En un mot, l'Église est appelée à devenir le sacrement de Jésus, aussi transparent que possible, car pour un d'elle, l'Église c'est Jésus. Et tout ce qui n'est pas du Christ en elle n'est pas vraiment l'Église. Il parle aussi de l'amour conjugal. Il ne peut se vivre, en vérité, que dans cette réciprocité de regard et dans cette infinie lumière dont la Trinité est le modèle, puis la présence, et dans ce sens, l'enfant, bien, c'est comme le fruit personnel de cet échange indicible. Le silence où l'âme se recueille en Dieu nous permet d'entendre, à la racine de nous-mêmes, cette musique silencieuse, dit Maurice Hundel, qui est, pour saint Jean de la Croix, un des noms les plus émouvants de Dieu, et du silence naît la joie, musique de l'assentiment à un bien qui nous comble. Zundel a écrit de si belles choses que je vous recommanderais de lire peut-être de René Abachi, « Trois itinéraires, un carrefour », où il est question de Gabriel Marcel, Maurice Zundel et Théard de Chardin. Ou bien, il y a les écrits du Canada français qui ont publié aussi, ici, un beau numéro sous la direction de Paul Beaulieu. Le numéro 71 des écrits du Canada français. Puis il y a Claire Luc aussi, qui a publié chez Médiapol, les éditions des Pères de Saint-Paul, les Sœurs de Saint-Paul, Maurice Zundel, esquisse pour un portrait. Mais il y a aussi tous les beaux ouvrages de Maurice Zundel parus chez Anne Sigier.